Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Bonsoir, bonsoir, il est 6h avant minuit et vous écoutez votre émission d'actualité locale préférée. Ce soir, la plupart d'entre vous seraient en week-end, mais pas certains oiseaux comme les martinets noirs qui ont commencé à pondre des œufs. Place au flash de Léonore.
Le sol se dérobe sous les pieds des habitants de Mexico. L'affaissement de la ville serait de 1,2 cm par mois. D'après El País América, les sols des zones les plus sensibles de la métropole mexicaine se tasseraient même de plus de 40 cm par an. C'est le tout nouveau satellite NISAR, fruit d'un partenariat entre la NASA et l'Organisation indienne de la recherche spatiale, qui apporte ces données inédites. Selon l'agence spatiale, le phénomène s'explique par le développement urbain et le pompage excessif des eaux souterraines. Torture en uniforme, titre l'éditorial du journal des Noticias, des violences policières entachent le Portugal. 13 nouveaux agents et 2 chefs ont été placés en garde à vue mardi. Ils sont désormais 24 policiers soupçonnés de faits de violence et de torture sur des personnes vulnérables. Depuis 2022, les dérives au sein des forces portugaises suscitent des interrogations. Des responsables policiers souhaitent un filtrage plus strict lors du recrutement, mais aussi davantage de supervision hiérarchique et l'installation de caméras dans les commissariats. Le Royaume-Uni vire à droite. Aujourd'hui, plusieurs millions de Britanniques sont appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants et représentantes locaux. Un scrutin qui pourrait donner un peu plus de pouvoir à l'extrême droite, selon les sondages. L'AFKN s'est penché sur la situation.
Le Premier ministre travailliste Keir Starmer va-t-il se faire écraser par l'extrême droite de Nigel Farage ? En juillet 2024, le Labour, le parti travailliste, avait remporté haut la main les élections législatives britanniques, mais les nombreuses crises, dont le conflit au Moyen-Orient, auront accentué l'impopularité du Premier ministre. Autre faux pas, la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur britannique de Washington. Proche du Premier ministre, Mandelson était également un ami du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 2 ans, le parti de Keir Starmer va se confronter aux urnes. Selon plusieurs sondages dans le pays, le Labour risque de perdre ce soir 1850 sièges sur les 2550 qu'il détient. Pire, c'est la première fois que le Labour pourrait perdre une élection au pays de Galles depuis sa création il y a 27 ans. À l'image de leurs voisins et voisines d'Écosse, les Gallois et les Galloises se tournent petit à petit vers l'indépendance. Une défaite donc qui pousserait un peu plus Keir Starmer vers la sortie. Au sein même du camp travailliste, certains députés ont déjà annoncé qu'ils publieraient une lettre ouverte demandant la démission de Keir Starmer si les résultats sont mauvais. A l'inverse, le parti anti-immigration Reform UK pourrait gagner plus de 1200 sièges sur les 5000 renouvelés aujourd'hui. Lors des élections législatives de 2024 déjà, le parti de Nigel Farage avait obtenu 14% des voix, mais selon l'Institut YouGov, l'extrême droite serait désormais en tête des intentions de vote nationales. En 2029, Nigel Farage et sa politique ultra-conservatrice pourraient saisir la place de Premier ministre du Royaume-Uni.
Attention cependant aux verts de Zach Polanski, un parti autoproclamé éco-populiste, proche de l'économie Zuckman et qui se voit déjà vaincre l'extrême droite britannique en 2029. Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse est désormais irréversible, affirme Sébastien Lecornu. Le Premier ministre français vient de signer un protocole d'accord à Toulouse en présence des élus des collectivités locales concernées. Une première somme de 500 millions d'euros a été débloquée. La ligne à grande vitesse divise, le projet n'a pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Les associations écologistes pointent un impact important sur la biodiversité avec une ligne qui traverse des zones humides et des forêts. Pour Sébastien Lecornu, le transport reste une priorité. Paris en finale de la Ligue des Champions. Hier, le PSG a concédé le nul face au Bayern Munich. Le score de 1-1 garantit la qualification aux joueurs de Luis Enrique. Entre joie et débordement, 127 interpellations ont eu lieu à Paris après la victoire. 95 personnes ont été placées en garde à vue. L'exposition Place de la Concorde de Clichy de Yann Arthus-Bertrand, dans le cadre d'un projet consacré au vivre ensemble, a également été endommagée. Les champions en titre continuent tout de même leur course. Le PSG affrontera Arsenal le 30 mai et espère bien remporter la coupe pour la 2e fois d'affilée. Catastrophe cette fois-ci pour le Stade Rennais. Brice Samba est suspendu pour la dernière journée de Ligue 1. Les Rouges et Noirs devront composer sans lui face à l'OM. Malgré le dossier de révision présenté par Rennes, la commission de discipline de la LFP a annoncé hier soir sa suspension. Brice Samba est sanctionné pour son 5e carton jaune de la saison. Le 17 mai, l'équipe de Franck Hayes devra composer sans son gardien star. C'est le dernier mètre de grignotage de la Vilaine. Les deux kiosques de l'ancien parking ont été démolis. La dalle a laissé place au fleuve à ciel ouvert. Au total, 6000 tonnes de béton et 1000 tonnes de bitume ont été évacuées. Les travaux ont comme objectif de créer un îlot de fraîcheur au sein de la ville. Les aménagements se termineront en 2028. L'objectif est de planter plus de 200 arbres ainsi qu'une passerelle et des pontons.
Merci Léonore.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit. 0h.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Attention, si vous êtes à Rennes ce week-end, un souffle de créativité et de partage va survoler la ville. De vendredi à dimanche, vous pourrez donc vous réfugier dans la ferme de la Harpe pour assister à Fabula, un nouveau festival de contes. Habillé d'un sweat rose, Anne-Marie Limpalère, je le prononce bien ?
Super.
Vice-présidente et coordinatrice du festival Fabula est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Et à vos côtés, vêtue d'un t-shirt studio Ghibli, Gilbert Chevelu, président des Tisseurs de Contes, bonsoir.
Bonsoir.
En quelques mots déjà, en quoi consiste Fabula, Anne-Marie Limpalère, pardon, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Bah, il s'agit justement d'un temps de rencontre, d'un temps de passation d'histoire, d'un temps qui soit convivial autour du conte, un temps de voyage avec les histoires donc racontées par les conteurs. C'est un vrai temps de partage, un temps, voilà, il y aura une librairie, des spectacles, il y aura des food trucks, enfin, c'est un vrai temps de village autour du conte.
Et c'est donc la première édition de ce festival. Comment est né le projet derrière quelle valeur artistique ?
Évidemment, nous sommes venus des Tisseurs de Contes. Nous sommes l'association Les Tisseurs de Contes. On est une très vieille association. On a dans les 33 ans, je crois, maintenant. Et donc, on fait du conte. Notre but, c'est de faire des spectacles de contes, d'apprendre aux gens à compter. On a des ateliers, on a des stages, on a beaucoup d'activités à ce niveau-là. Et donc, ce qui nous manquait, en fait, c'était un petit peu un festival qui soit ouvert au grand public, parce que c'est vrai que ça permet de faire découvrir le conte et tout ce qui va avec au grand public.
Et comme vous le disiez, c'est l'association Les Tisseurs de Contes qui porte le festival. Gilbert Chevelu, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, ses actions ?
Alors, c'est une association qui est, donc je vous l'ai dit, elle est assez ancienne. On a environ 70, entre 70 et 80 conteurs qui sont inscrits, ce qui est gros pour une association de conteurs. Et on rayonne sur toute la région rennaise et un peu ailleurs d'ailleurs. On fonctionne en atelier pour ce qui est de l'apprentissage. Donc on a 6 ateliers différents qui regroupent entre 10 et 12 personnes chaque atelier. On fait également des stages. Alors tous les ans, il y a un stage d'initiation pour apprendre aux gens les bases du conte. Et puis après, les gens qui sont intéressés peuvent se répartir dans les autres ateliers. Et c'est comme ça que l'association grossit petit à petit. On crée de nouveaux ateliers quand il y a besoin. Et on a même des ateliers qui sont spécialisés, comme l'atelier à objets, par exemple, où on fait du théâtre d'objets et du conte avec objets.
Avant de continuer et de revenir sur le festival, je vais vous donner une définition et puis je vais vous laisser y réagir. Conte, nom masculin, récit de faits, d'aventures imaginaires destinées à distraire. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce que vous y ajouteriez des subtilités ?
Il y a beaucoup de choses à ajouter.
Il y a beaucoup de choses à ajouter. Distraire, certes, mais dans les contes, en fait, c'est des récits qui ont été à l'origine du monde. C'est-à-dire que vous avez des contes étiologiques, il y a des contes qui expliquent, il y a des contes qui sont pleins de valeurs, qui sont pleins de sens. Et un conte, ça aide à grandir. Un conte, ça a du sens, ça permet à l'homme de voir le bien, le mal, de savoir se situer, d'entendre des aventures. Ça permet aussi, le conte merveilleux, par exemple, permet de grandir. C'est des récits initiatiques. Donc, et vous avez plein de sortes de contes. Vous avez autant les, tout ce qui est mythes, qui ont été des fondateurs au niveau par exemple, la mythologie grecque, qui était fondatrice au niveau de tout ce qui est européen. Vous avez la mythologie nordique, vous avez la mythologie africaine, la mythologie indienne. Ce sont des récits de base qui ont vraiment aidé les hommes et les femmes à se construire, en fait, et à mettre des racines. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment du Liban. C'est un pays, en fait, où il y a eu énormément, avec l'Euphrate, etc., il y a énormément de récits issus de la Mésopotamie qui ont été fondateurs, en fait. C'est le berceau de l'humanité au niveau des mythes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on se dit quand même qu'il y a des choses, de très très belles choses qui sont sorties de là-bas et qu'il y a des choses qui sont détruites aujourd'hui, mais que ces récits, justement, ça aide à la mémoire de garder tout ça, en fait. Et c'est ça l'importance des récits et l'importance de la transmission de ces récits. Et si ces récits n'avaient pas été transmis d'oreille en bouche, de bouche en oreille, d'il y a 3000 ans et qui sont arrivés jusqu'à chez nous maintenant, ben, c'est des récits qu'on aurait perdus. Et les conteurs, ça sert à ça. Ça sert à maintenir justement tous ces récits et la mémoire de tout ça. Et on est porteur de ce sens-là et de cette, cette mémorisation, de cette mémoire humaine, en fait. Et c'est important.
Je pense que le mot que tu as dit, c'est humain, en fait. Et les contes sont issus de l'humanité. Des contes, il y en a dans tous les pays, il y en a dans toutes les cultures. Et qui recouvre parfois des symboles différents. Mais les symboles, eux, recouvrent des concepts qui sont universels pour les humains. Vous avez toujours la peur, le désir, l'envie, le plaisir, la joie, l'amour. Et tout ça, c'est des symboles qui sont universels pour tous les peuples. Alors évidemment, suivant la culture, ça peut changer. Il y a des peuples où le symbole de la sagesse, ça peut être un hibou. En Afrique, c'est souvent un lièvre. Vous voyez, le symbole change. Quand on met un lièvre dans une histoire en Afrique, ça a un sens. Mais en fait, le symbole, c'est toujours la sagesse. Voilà, le concept qui est derrière. Et donc, on retrouve les mêmes concepts, en fait, dans toute l'humanité, puisqu'on est tous pareils. Donc le conte, c'est vraiment quelque chose qui va unifier tout le monde. Et puis je vais reprendre quelque chose que vous avez dit dans votre définition, vous avez dit imaginaire. Alors, il y a des contes qui peuvent être basés sur l'imaginaire, mais qui impliquent des choses réelles. Voilà. En fait, moi je mettrais trois catégories principales dans le conte. Vous avez les réalistes, les merveilleux et les fantastiques. Les réalistes sont des contes qui n'ont pas de choses extraordinaires, de magie ou d'animaux qui parlent ou de choses comme ça, et qui en fait sont des tranches de vie, mais ce sont des contes quand même, parce que c'est une histoire de quelqu'un à qui il arrive des choses extraordinaires, mais pas surnaturelles. Le conte merveilleux, lui, c'est les contes de fées, par exemple, hein, où la magie opère partout. Les contes fantastiques, c'est un petit peu plus drôle aussi, c'est on part d'un univers réel et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se retourner et on va rentrer dans quelque chose de magique. Mais on ne sait pas si c'est vraiment quelque chose qui est arrivé ou si c'est une illusion, est-ce que celui qui a vécu ça est devenu fou tout simplement ou est-ce qu'il a mal compris ou... Enfin bref, ça peut être une histoire de fantôme.
C'est le genre de conte qu'on avait aussi peut-être enfant, le chaperon rouge, enfin le petit chaperon
alors
rouge.
Alors ça, c'est du récit initiatique, en fait.
Ok, ouais. Parce que justement, j'allais venir là-dessus, parce que dans l'imaginaire collectif, les contes, ils se résument souvent au style de Charles Perrault, par exemple, aux enfants perdus dans des forêts. Donc il y a plus que ça dans les
contes. En fait, il y a toute une symbolique, en fait, derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser des faits réels de la vie, mais en fait, ils correspondent à un symbole. Par exemple, l'ogre dans Le Petit Poucet, c'est la figure paternelle. Et c'est vraiment l'autorité. Et à un moment donné, en fait, l'enfant, le petit poucet, il a besoin de se libérer de cette autorité. Parce qu'il grandit, il va devenir adolescent. Et donc, il va, à un moment donné, il va être plus malin que l'ogre. Au début, il va subir la loi de l'ogre. Et puis après, il va devenir plus malin. Il va prendre les bottes de cet lieu de l'ogre. Et en fait, il va prendre le pouvoir quelque part. Il va se sortir de cette autorité. Et il va finir par ridiculiser, en fait, entre guillemets, ce père, parce que lui est devenu adulte. Et en fait, tous les contes merveilleux sont vraiment des contes symboliques. Le petit chaperon rouge, en fait, à la base, c'est un conte qui allait de couturière en couturière, de femme en femme. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'histoire du loup qui va violer la petite fille dans son lit. C'est pas ça du tout, en fait. C'est la petite fille qui va désobéir à sa mère pour devenir femme. Et ça n'a plus du tout la même chose, ça n'a pas la même signification, en fait. Et quand, dans la version traditionnelle, parce que Perrault a édulcoré beaucoup de choses, dans la version traditionnelle du Petit Chaperon Rouge, le loup, effectivement, ne mange pas la grand-mère, il la cuisine et il la fait manger au Petit Chaperon Rouge. Et en fait, ça a un symbolique, en fait, que l'enfant prend l'héritage de sa grand-mère. Elle mange, en fait, sa grand-mère, le symbole, c'est elle mange toute l'expérience de sa grand-mère. Et elle va jeter ses vêtements au feu. Et comme ça, elle va devenir femme, en fait. Et mais elle est maligne, parce que quand elle dit qu'elle veut aller aux toilettes, et que le loup lui dit « Ah, oh, mais t'as qu'à faire pipi dans le lit, c'est pas grave !» Et elle dit « Bah non, 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 moi je fais pas pipi dans le lit !» Et en fait, elle quitte l'enfance. Et donc, elle devient adulte. Et en fait, elle est maligne, parce qu'elle arrive à s'échapper. Et en fait, le loup, du coup, à la fin de l'histoire, dans la tradition, le loup, en fait, ne mange pas le Petit Chaperon Rouge. Et en fait, Perrault en a fait un autre récit. Il en a fait un récit qui est moralisateur. Et c'est ça, en fait, il y a tellement de choses qui passent dans les contes, tellement de contes qui ont été détournés, qui ont perdu quelque part leur première symbolique. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de parler des contes. Mais voilà.
Et vous le défendez aussi avec le festival Fabula, parce que, on le rappelle, ça ne sera pas un festival uniquement dédié aux enfants, c'est un festival tout public, et vous le dites, le conte ne se limite ni à l'enfance, ni aux images figées des soirées au coin du feu. Comment est-ce qu'on écrit à ce moment-là un conte pour adultes, un conte pour ados? Est-ce qu'il y a une différence entre les lectures?
Alors oui, évidemment, parce que les enfants n'ont pas tous les concepts auxquels peuvent accéder les adultes, donc on est obligé de simplifier beaucoup de choses. D'ailleurs, dans la tradition, les contes avaient souvent plusieurs niveaux de lecture. Hein, quand on racontait au coin du feu, bah, y avait les enfants, il y avait les parents. Les enfants comprenaient ce qu'ils devaient comprendre, mais les parents voyaient toutes les allusions, la plupart du temps sexuelles d'ailleurs, qui étaient dans les histoires. Donc il y avait plusieurs niveaux de lecture. Mais autrement, on peut très bien faire des contes qui sont spécifiquement pour les adultes. Hein. Il suffit de mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre pour les enfants, avec des perversions, des voyeurs, des exhibitionnistes, des psychopathes. Enfin non, dans les contes traditionnels, il y a beaucoup de psychopathes, c'est vrai. Il y a beaucoup de violence. Le petit pousset, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Mais il y a moyen de faire des choses qui sont axées sur les valeurs des adultes. Et dans les contes réalistes, par exemple, on peut très bien faire des choses extrêmement précises, presque des faits divers, mais avec quand même, de toute façon, un héros à qui va arriver des choses extraordinaires et qui va faire des choses extraordinaires.
Et aujourd'hui, on connaît les difficultés à faire publier des romans, que ce soit pour des raisons économiques, à cause de l'intelligence artificielle, à cause du désintérêt parfois de certaines générations pour la littérature. Est-ce que vous les ressentez, ces difficultés, dans le secteur du conte?
Bah non,
parce qu'en fait, nous, on ne passe pas du tout par l'écrit, en fait. Nous, on passe que par l'oral. En fait, un conte qu'on peut prendre dans un bouquin, par exemple, on va prendre ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire un peu le squelette de l'histoire, les différents événements. Mais après, nous, on va pas l'apprendre par cœur. En fait, on va fabriquer nos propres images. On va garder le squelette de l'histoire et garder le sens qu'on veut donner à l'histoire. Mais après, en fait, nous, on retravaille tout. C'est-à-dire qu'on travaille tout à l'intérieur de nous-mêmes. On a toujours cette idée, en fait, quand on lit une histoire, on va la lire, on va un peu la manger. On est un peu comme le loup. On va un peu la manger, on va la digérer, on va la travailler, on va travailler nos images, travailler tout ça. Et hop, elle va à un moment donné, elle va ressortir. Alors des fois, ça peut être un mois, trois mois, six mois, neuf mois, un an. Ça dépend comment on a travaillé l'histoire. Et puis, elle va ressortir avec nos propres mots, nos propres émotions. Et donc voilà, on n'apprend jamais en fait une histoire par cœur. Et ça se passe comme ça, voilà.
En fait, les histoires qui sont dans les livres, c'est les histoires qui sont en conserve. Et c'est très bien qu'il y en ait, parce que ça permet de conserver la mémoire d'histoires anciennes. Sinon, il y en aurait beaucoup qui auraient disparu. Parce qu'en passant de bouche à oreille, des fois, bah, ça se perd. Surtout au début du XXe siècle, quand la radio est arrivée dans les maisons. Et après, la télé, ça a été encore pire. Avant, il y avait du conte partout. À un moment donné, il n'y avait plus aucune activité de conte nulle part. Quasiment, sauf chez quelques passionnés, mais bon. Avant, c'était une activité commune, alors qu'après, tout le monde écoutait la télé et la radio.
Justement, les
livres ont permis de sauver beaucoup d'histoires comme ça. Mais lire un conte, ce n'est pas compter. Lire un conte, c'est comme si vous disiez « je vais lire un livre de cuisine, donc je suis cuisinier ». Ce n'est pas parce que vous lisez un livre de conte que vous êtes conteur. Le conte, c'est l'oralité. Donc il faut effectivement, comme l'a dit Anne-Marie, intégrer l'histoire, se l'approprier et après la ressortir avec ses propres mots, son propre imaginaire.
Ses propres images.
On est libre de modifier un conte quand on conte, une histoire qui existe. On est libre de la modifier comme on veut, du moins qu'on garde le message de l'histoire, et puis sa structure, bien sûr, pour pas perdre l'histoire.
Et pour en revenir au festival, c'est la transmission intergénérationnelle, et vous en parliez, de la transmission que vous mettez à l'honneur pour cette première édition. Pourquoi cette thématique? Qu'est-ce qu'elle signifie?
C'est l'essentiel pour le conte. C'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est la base du bouche à oreille, c'est la base du maintien du conte. S'il n'y a pas de transmission, le conte il fonctionne pas en fait. Et c'est pour ça que pour nous, la transmission, c'était vraiment important de la mettre en place. Alors nous, on en fait un peu dans notre association parce qu'on transmet l'art de conter et, à notre niveau. Et donc, on fait beaucoup de soirées contes, etc. Donc voilà. Mais on voulait en fait travailler avec deux conteuses, donc, qui sont Marie Chiffmine et Gigi Bigot, qui, elles, en fait, ont travaillé avec des jeunes conteuses, Blanche Lelièvre et Morgane Lecuff. Et donc, l'idée, c'était vraiment qu'on voit cette transmission. Enfin, que tout le monde voit ce que c'est la transmission. Et donc, elles vont faire un spectacle à quatre, parce que c'était... C'est notre force, quoi, la transmission.
Oui, enfin, c'est pas que ça, le conte.
Non, c'est pas que
c'est
ça,
une des valeurs du conte, mais il y a aussi... Il y a pas que des contes du répertoire classique, il y a aussi des créations modernes. Donc, vous avez des gens qui créent des contes. Est-ce que ces contes vont perdurer? On ne sait pas. On saura dans 200 ans s'ils sont toujours là. Mais qui créent des contes, et ça fait de très bons spectacles. Et le but du jeu, c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit vivant. On ne peut pas ressortir toujours les mêmes histoires. Il y en a beaucoup, des histoires du répertoire, des milliers, des milliers. Mais il y a toujours de la création. Et je connais beaucoup de conteurs qui créent leurs propres histoires à partir de pas grand-chose. Mais ça donne des histoires intéressantes.
Et puis le conte, c'est un voyage. C'est emmener les gens en voyage avec nous, en fait. C'est-à-dire que dans nos images, on les entraîne dans notre histoire. C'est-à-dire que quand on raconte, c'est comme si on racontait une histoire qu'on avait déjà vécue. C'est comme si on l'emmenait dans le pays où on a vécu l'histoire. Et donc, on emmène les gens avec nous.
Une thématique en tout cas que vous accompagnez d'une programmation qui sera vivante et riche. Est-ce que assez rapidement, il nous reste un tout petit peu de temps, vous voulez peut-être présenter quelques noms qui seront présents ce week-end?
Enfin, on a parlé de Marie Chiffmine, mais
il y a Yannick Jolin.
Il y a une dizaine de spectacles en tout, de professionnels, plus des siestes comptées, des apéros comptés, une scène ouverte. Il y a une dizaine de spectacles professionnels. Vas-y, tu veux.
On a Yannick Jolin qui vient nous faire un spectacle conteur-conteur qui est une réflexion en fait sur le métier de conteur. Donc lui, il travaille beaucoup sur du récit traditionnel qu'il remet à sa sauce et auquel il redonne une certaine modernité et une réflexion. Il y a le spectacle de village de Scléren. Donc Scléren, elle, c'est une improvisiconteuse. Donc elle a fait beaucoup de têtes d'impro, elle a fait du conte et elle mélange en fait les deux. Et Le principe de son spectacle, c'est qu'elle part d'un début d'histoire et elle va s'appuyer sur les propositions du public pour écrire la suite de l'histoire. Donc chaque spectacle est différent. Donc c'est autant de l'impro, du conte, parce qu'elle travaille sur un récit structuré, hein, elle a une structure, etc. Mais elle le change. Et puis autrement, nous avons un grand conteur breton. Donc, qui a la lisière des trois pays et des deux mondes, c'est Patrick Ewen. Donc ça, c'est le conteur breton en chef, on va dire, qui, depuis des années, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur Rennes. Et on a un conteur africain, Mamadou Sall, qui est un Mauritanien et qui compte dans sa langue natale et en français, évidemment. Et c'est un vrai voyage en Afrique et dans les rituels autour de la pluie.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie Limpalère, vice-présidente du festival Fabula, et Gilbert Chevelu, président des Tisseurs de Contes, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous pour votre accueil.
Pour rappel, Fabula, le festival consacré aux contes, c'est dès demain et jusqu'à dimanche à la ferme de la Harpe. Pour retrouver toute la programmation, rendez-vous sur tisseursdecontes.fr ou directement sur place.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Aujourd'hui, Léonore, tu ne vas pas parler d'une personne, mais plutôt d'une stratégie qui prend racine à l'extrême droite. Cette stratégie, c'est la réinformation. Pour commencer, qu'est-ce que veut dire ce terme ?
Alors la réinformation, c'est un concept assez simple. C'est le fait de transmettre une idéologie d'extrême droite dans des écrits présentés comme journalistiques. Le but, c'est de décrédibiliser les médias traditionnels pour imposer une lecture du monde orientée politiquement. C'est une tactique propre à la fachosphère.
Ce mot vient donc de l'extrême droite.
Oui, le mot réinformation, il apparaît en novembre 1997. C'est Bruno Maigret qui le popularise lors d'un colloque du Conseil scientifique du Front National sur l'information. À l'époque, il est numéro 2 du parti aux côtés de Jean-Marie Le Pen.
Maintenant qu'on a compris l'origine et la signification de ce mot, la réinformation en pratique, ça donne quoi ?
Alors, il existe beaucoup de sites de réinformation, plus ou moins identifiés par le public. Parmi eux, on retrouve par exemple Braise Info en Bretagne. Au niveau national, F de Souche, créé en 2005, est considéré comme l'un des piliers français de la réinformation. Ces sites, ils reprennent des codes médiatiques classiques. Les interfaces et la structure des articles peuvent sembler assez basiques de loin. C'est justement ça qui brouille les frontières entre écrit journalistique et propagande politique. Pour Erwan Le Gall, qui a étudié le sujet, ce qui différencie les sites de réinformation des médias journalistiques, c'est leur utilisation du journalisme de lien.
Et c'est quoi ça, le journalisme de lien ?
Pour résumer simplement, c'est le fait de reprendre et de relayer des informations publiées dans d'autres médias. C'est une notion popularisée en 2007 par Jeff Jarvis. Pour les sites de réinformation, le fait de republier des contenus issus de médias d'extrême droite montre qu'ils adhèrent à leur ligne éditoriale et à leur position politique. Ça permet aussi de donner une apparence journalistique à l'information. D'une certaine manière, ça protège les sites web. On ne peut pas les accuser directement de produire des fake news puisqu'ils effectuent simplement des reprises d'articles.
Mais du coup, je comprends pas bien. Concrètement, quand est-ce que l'information se transforme en outil de communication pour l'extrême droite ?
Alors ce travail éditorial, il se fait en fait dans le choix des informations publiées. On appelle ça le cadrage. Les sites publient majoritairement des informations en lien avec les thèmes traités par l'idéologie d'extrême droite, la hausse de l'immigration ou l'islam par exemple. Le site peut également choisir de mettre en avant des parties d'articles qui vont dans son sens. On va prendre un petit exemple. Quand France Inter titre « Un homme condamné à 6 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle d'une ex-Miss France au Festival d'Avignon », F de Souche annonce « Le migrant marocain soupçonné d'avoir agressé sexuellement l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani pendant le Festival d'Avignon, condamné à 6 mois de prison avec sursis ». Là, on voit bien que réécrire les titres et changer les tournures de phrases peut produire un effet complètement différent. En commençant par donner l'origine de l'agresseur, F de Souche indique que celle-ci jouerait peut-être un rôle dans le comportement de l'individu. Derrière une soi-disant objectivité, l'enjeu est donc principalement l'agencement de l'information. Il est construit de manière consciente pour orienter le lecteur vers une réalité biaisée.
Le choix du vocabulaire est donc important, j'imagine.
Effectivement, les sites de réinformation jouent aussi avec des choix sémantiques marqués. On peut reprendre l'exemple du nom F de Souche. Il renvoie à la fois au pseudonyme de son créateur François de Souche et à un jeu de mots autour de l'expression français de souche. Les mots choisis font donc souvent référence à l'idéologie d'extrême droite.
Il y a d'autres choses sur les sites de réinformation qui renvoient à une prise de parti politique ?
Oui, on peut penser par exemple aux publicités qui sont souvent orientées. On retrouve des renvois vers des livres de personnalités d'extrême droite. Ça reste sans doute quand même dans les espaces de commentaires et de discussions que l'idéologie est la plus visible. Pour se dédouaner, les plateformes précisent que seul l'auteur ou l'autrice est responsable de ses propos. Mais dans ces espaces, les articles servent en fait à lancer des débats orientés. Ce sont souvent des chats remplis de propos discriminatoires et d'incitations à la haine.
Et quel impact a la réinformation ?
Alors selon les chercheuses Stéphanie Lukasik et Alexandra Salou, la réinformation correspond en réalité à une amplification socio-numérique de la désinformation. Il faut tout de même nuancer ce propos. L'impact de la réinformation est en fait, comme la plupart des informations, c'est un contenu qui est partagé entre des personnes qui ont déjà la même orientation politique. En clair, la diffusion, elle se fait surtout au sein d'une bulle informationnelle d'extrême droite. Même si ces contenus atteignent parfois des publics plus éloignés, en fait, ils servent d'avant tout comme des outils de mobilisation. Et elle permet de renforcer les convictions des sympathisants en diffusant une vision très orientée de la société. L'objectif, c'est de tenter d'influencer des personnes qui n'ont pas encore une position politique clairement affirmée.
Et pour ne pas se faire avoir, on le rappelle, il faut croiser ces sources d'informations. Merci Léonore. Léonore qui ouvre et qui clôture cette émission. Mais ep, je crois qu'on a un petit message. Ça me rend heureux de savoir que notre répondeur aura été comblé cette semaine des messages d'amour, d'espoir, de culture. Alors finissons cette émission avec quelques mots sûrement touchants.
Téléphone. Allô, allô. Radio Sauvage.
Que fait un gros poussin ?
Piou piou !
Il a pas tort. Mais il a pas tort. Il a pas tort. Et vous aussi, vous pouvez donner votre avis sur des sujets de société comme notre auditeur appelé. Pour rappel, le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On écoute tous vos messages, qu'il s'agisse de votre dernier verre en terrasse avec un intermittent un peu prétentieux, ou bien pour parler de l'odeur de brûlé dans votre maison quand vous mettez le pain à griller et qu'en fait la chaleur était beaucoup trop élevée, donc votre père arrive en pensant qu'il y a le feu en bas et vous pleurez en criant « mais j'avais pourtant mis le grille-pain sur 4 ». Par exemple, bien sûr, je le répète, le numéro 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.